Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Vous êtes ici, chez vous, sur Point d'Orgue. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, mais pas tout à fait. Je suis par avance un peu frustré. Je vais vous expliquer pourquoi. Le temps m'est compté. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un comparatif entre deux œuvres magistrales et vous allez voir qu'on va être un peu tenu par le temps et je ne sais pas si on va pouvoir tout comparer. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout état de cause, j'espère vous faire découvrir de belles pages de musique et de vous conduire peut-être dans des endroits que vous ne connaissiez pas. Alors, on va continuer notre chemin. Nous avons parcouru jusqu'à présent le carême en compagnie du Requiem de Gabriel Fauré. On a fini d'observer cette œuvre. Alors, je vous propose d'aller maintenant analyser autre chose qui est extrêmement célèbre également. En tout cas, un texte, une prière formidable qui a été portée en musique par de très nombreux musiciens. Je veux bien entendu parler du Stabat Mater. Alors avant de vous faire écouter les deux versions que je vous propose, quelques petites généralités sur le Stabat Mater. Donc il s'agit tout simplement d'un texte évoquant la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus. C'est quelque chose qui a extrêmement d'importance dans la Bible parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la présentation au temple, Saint Siméon qui regarde la Vierge et qui va lui dire qu'un glaive se plantera dans son cœur, c'est ce glaive-là qu'on retrouve dans ce texte-là. Et donc, il est fait mention, lors de ce texte, de toute la douleur que ressent la Vierge Marie lorsqu'elle voit son fils crucifié sous ses yeux. Alors il y a eu beaucoup de réflexions sur ces textes-là qui voyaient une sorte d'union mystique entre les douleurs de Marie et les douleurs du fils. Il y a là aussi énormément de littérature à ce sujet, mais ce qui nous intéresse c'est sa diffusion et le fait d'être mise en musique. La diffusion a été totale à partir du XIIIe siècle en Europe, notamment en raison des flagellants qui parcouraient l'Europe en chantant cet hymne. Vous savez, les flagellants, c'était ces personnes qui se donnaient les châtiments en public pour expier leurs fautes. Et donc là, ça a été beaucoup répandu en langue vulgaire. Mais bien entendu, le grégorien a eu ce travail d'unification. Donc je vous invite à découvrir les pages grégoriennes de ce chant-là. Aujourd'hui, il ne fait plus vraiment partie de l'usage liturgique depuis le Concile Vatican II. Il était question avant de le placer avant l'Alléluia, mais aujourd'hui, il n'y a plus cette fonction de séquence, donc on le retrouve uniquement dans la musique. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'observer deux de ces très grands Stabat Mater. Bon, il y en a une grande quantité de très grands compositeurs ont composé sur ce texte. Je vais donc vous parler dans un premier temps du Stabat Mater de Pergolèse et dans un second temps de celui de Poulenc. Alors, les siècles les séparent, les visions aussi, mais comme vous le savez, j'aime bien faire le choc des cultures pour vous montrer les différentes interprétations que l'on peut avoir de cette œuvre-là. Alors, on va commencer en écoutant Pergolèse. Bon, c'est le plus classique, c'est celui qu'on attend toujours quand on parle du Stabat Mater. Mais comme d'habitude, vous savez, moi j'aime bien prendre des pièces un peu connues et vous donner des clés de lecture, de compréhension, de sorte à ce qu'on puisse l'entendre différemment. Alors déjà, Pergolesi, un jeune homme, un très jeune homme, il écrit cela, c'est son œuvre Hélas de maturité. Il est mort à 26 ans, il a composé cette pièce juste avant de mourir. C'est une pièce très intimiste. Elle est composée de premier violon, de second violon, d'alton et de basse continue, c'est tout. Et en termes de voix, une soprane, une alto. Alors, en fonction des voix, on a pu confier cela à des castrats à l'époque, puisque les femmes ne chantaient pas dans la liturgie. Mais aujourd'hui, il est assez fréquent d'avoir une soprane, un contre-ténor, une alto, ou de voir ça avec des chœurs d'enfants. Je vais vous proposer, dans un premier temps, d'entendre tout simplement l'introduction du Stabat Mater. Alors, je vous dis ce qu'il se dit. Je vous en fais la traduction en français. Elle se tenait dans la douleur, près de la croix, en larmes, tandis que son fils était suspendu. Donc là, le ton est donné. Et donc ce que vous allez entendre chez Pergolèse, c'est plusieurs choses extrêmement fortes. Dans un premier temps, vous allez effectivement entendre la basse, Tim tom, tim tom, tim tom, tim tom. Voilà, quelque chose de très rythmé. C'est comme une marche funèbre. On s'avance inexorablement vers son destin, vers la mort. Donc là, il y a un côté inarrêtable, terrible. Ensuite, vous avez l'instrumentation en tant que telle, les violons qui utilisent le registre aigu. Il y a quelque chose de tout à fait plaintif là-dedans. Et de la même manière, la façon dont jouent les violons et les voix qui vont entrer, donc les voix de femmes qui symbolisent bien sûr Marie, vous allez avoir ces secondes, ces accords qui sont très petits, qui vont venir frotter l'oreille, qui vont montrer tout le côté très plaintif, très triste, très douloureux. Qui vont se frotter. De la même manière, on pourra penser aux échardes du bois de la croix, c'est-à-dire quelque chose qui dérange, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait souffrir. Et de la même manière, vous verrez, donc certes, vous avez des passages qui sont très doux, avec les violons qui passent, mais de temps en temps, yam, pim, pam, pim, vous avez ces petites descentes. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le bois de la croix qui est martelé, ou est-ce que c'est, comme je le pense, les larmes de Marie qui pleure, et donc la respiration qui devient saccadée? Je vous en laisse juge, et je vous fais écouter ce début de Stabat Mater sous la direction ici de Claudio Abbado.
Thank you.
voilà la douleur exprimée par le génie de Pergolèse. Et c'est une toute autre ambiance qui va s'ouvrir chez Poulenc. C'est une œuvre qui est bien plus tardive. Elle date de 1950 et elle a été composée à la mort de son ami l'artiste Christian Bérard. Alors, à l'origine, Poulenc voulait lui composer un requiem, mais il est revenu à ses premiers amours. Vous savez qu'il a eu une grande conversion, une grande histoire avec la Vierge Noire de Rocamadour. Hein. Il écrit des litanies pour cette Vierge. Et alors, en y retournant à Rocamadour, il s'est dit non, ça sera un Stabat Mater. Et donc, là encore, il a une charge émotionnelle extrêmement grande. Un, parce que c'est pour son ami. Deux, parce que c'est cette relation avec cette Vierge de Rocamadour très forte chez Poulenc. Vous allez voir ici que les choses sont très différentes. Un orchestre beaucoup plus porté, également un chœur, ici un chœur avec deux pupitres des basses, donc beaucoup de travail sur les graves. Vous allez entendre ça immédiatement. Je ne vais pas faire beaucoup de remarques, mais vous allez voir cette idée de gravité, de douleur très intime et intérieure que Poulenc arrive tout de suite à nous faire avoir dès les premières mesures de son Stabat Mater. Alors là aussi, on est en présence d'un chef-d'œuvre extraordinaire. Vous vous rendez compte, cette différence, mais en même temps, cette intensité qu'il y a chez ce compositeur, c'est incroyable. Il utilise pourtant un peu les mêmes ingrédients que Pergolèse. Vous avez vu cette marche funèbre qui ne cesse de s'interrompre. Également ce côté très intime, on est clairement dans de l'amour maternel déchirant, et là les deux compositeurs le rendent bien. Je vous propose maintenant de faire une incursion à la toute fin du morceau, avec le quando corpus morietur, à l'heure où mon corps va mourir, fais que soit donnée à mon âme la gloire du paradis. C'est le dernier morceau de l'œuvre, donc là je vais vous refaire écouter la version de Pergolèse. Extrêmement intime, extrêmement détaillé, et avec ce Amen qui vient conclure ce Stabat Mater presque violent, presque vengeur, face à tant d'injustices de la mort du Christ. Et de manière tout aussi expressive, Poulenc va rendre ce même hommage à la mère du Christ. Ici, vous allez voir un dialogue impressionnant entre parfois des immenses ampleurs qui montrent la somme de la douleur avec des envolées de la soprane qui va être soliste et dans un autre sens, des choses totalement intimistes avec le cœur a cappella presque à nu quand il est question du corps qui se meurt. Donc une dichotomie immense et qui se termine avec une amplitude gigantesque là aussi afin de faire référence à ces portes du paradis qui nous sont promises après la mort. ça termine presque avec ce goût d'inachevé. On se dirait, mais qu'est-ce qui nous attend par la suite? C'est là le génie de Poulenc qui nous éblouit avec cette version du Stabat Mater. Alors je suis désolé, j'ai pas pu beaucoup parler, je suis pris par le temps, mais bon, j'espère que vous avez pu écouter d'une oreille nouvelle ces œuvres-là, et ce qui est bien entendu toujours intéressant, c'est de les comparer. Les siècles les séparent, les sensibilités, les histoires, mais finalement la musique est au service de la même chose, du texte, de la prière, et il y a quelque chose toujours de fascinant à voir que la musique rassemble, puisque finalement les mêmes sentiments sont ici exploités. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée, et la prochaine fois nous continuerons à étudier et à écouter ces deux magnifiques œuvres. Le Stabat Mater.